midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit. Manuel Mariani est avec moi, il me tend le menu de cette émission, j'ai déjà faim. Bonjour Manu, comment allez-vous?
Bah ça va, pas mal, un petit peu en last minute aujourd'hui, parce que comme vous débordez sur vos enregistrements, mon cher Philippe, du coup, voilà. Je suis obligé de me dépêcher.
Et là, l'invitée qui est là et qui est bienveillante, elle,
absolument,
elle découvre ce que c'est de se faire clasher en direct. Et je vois qu'elle est effondrée et qu'elle ne s'attendait pas à ça de vous, parce que vous avez l'air inoffensif, Manu.
Ouais, mais son tour ne viendra pas, parce qu'on est très heureux de la voir. C'est Julia Sedevdian, hein, qu'on a invité plusieurs fois, mais ça ne marchait pas trop au niveau des plannings à chaque fois.
C'est votre tour.
Non, je ne suis pas dans le reproche.
C'est votre tour maintenant.
Oui, mais je vois ça.
Elle n'est pas venue, voilà.
Non, on est très contents déjà parce que c'est une cuisinière étoilée, de talent, dont j'aime beaucoup la cuisine. Et puis aussi et surtout, c'est la plus jeune chef étoilée du monde. Alors tout le monde dit que c'est la plus jeune chef étoilée de France, mais moi j'ai fait mes vérifs.
Oui.
Et c'est bien du monde. Donc c'est un honneur et un privilège pour nous.
Vous vous en sortez bien, voyez, Julia.
Exactement.
Finalement, il se rétablit bien.
C'est ce que j'étais en train de me dire.
Ouais. Ah oui, j'ai pas envie d'être tricard, comme disent les jeunes, du Bayetas, son restaurant dans le 5e où on mange si bien. Ouais. Et
un coucou voilà. À mon équipe d'ailleurs qui m'écoute sûrement.
Bah oui, on les
un
salue.
Courage pour le service. Salue.
Et c'est ça que j'ai compris.
C'est Grégory, c'est ça l'associé?
Grégory
Anelka.
Mais on l'oublie souvent parce qu'on parle souvent des chefs qui sont sur les devants de la scène. Mais la cuisine, c'est d'abord un travail d'équipe.
Ah bien sûr. C'est comme les sports co, ça. Hein. Moi, je fais rien toute seule. Hein, donc, c'est eux qui font. Là, je suis avec vous parce que c'est eux qui font le taf du midi. Hein, donc, moi, je suis le cerveau, c'est mes mains. On fait tout ensemble. On crée, on travaille, on se voit beaucoup. Donc, c'est un travail d'équipe, hein, complètement. Mmh.
Hein. Mais vous êtes une fidèle, finalement, en fait. Hein.
Oui.
Ouais. Dans votre parcours, vous repérez des gens et vous les emmenez avec vous, en fait.
Bah, c'est vrai que dans ce métier, il y a des rencontres. Moi, j'ai eu deux rencontres fortes. Ça a été mes deux associés aujourd'hui, Grégory et Sébastien. Et puis aujourd'hui, j'ai en salle Antoine qui est avec nous depuis des années, qu'on a formé. Il y a des jeunes qui nous ont suivis quand on était chef et avec des postes à responsabilité où on était avant. Voilà, c'est. On fait un métier de passion et je pense que les rencontres, c'est aussi important. Donc. On est jeune aussi, dynamique, donc je pense qu'on arrive à se créer un peu autour de nous une équipe qui nous soutient et
mais c'est un talent.
Échange.
Non, mais c'est un talent, ça, aussi jeune, de pouvoir se créer un socle aussi solide et de comprendre que finalement c'est la façon dont on est accompagné qui permet de s'élever.
Bah, je pense que c'est aussi la manière. Quand nous on a commencé le métier, on a peut-être manqué un peu de ça et aujourd'hui on veut pas faire les mêmes erreurs avec nos équipes. On a envie vraiment de souder ça parce que c'est ça qui fait la différence en fait. Mmh. Même quand nos clients viennent manger au restaurant, ils le sentent tout de suite. Ouais. Quand il y a une osmose de l'équipe. Voilà.
Alors vous êtes la seule qui réconcilie, qui dit pas de mal de Pôle Emploi, hein, parce que vous dites que vous avez trouvé votre. Mais tout le monde dit du mal de Pôle Emploi, sauf vous.
Bah, il en faut.
Peut-être parce que j'ai jamais été inscrite. Mais je me suis dit quand je suis arrivée à Paris. Je ne trouvais pas de travail et je voulais absolument travailler dans un étoilé parce que je quittais Nice et j'étais dans un étoilé à l'époque.
Il faut dire à quel âge vous
quittez Nice aussi. Ouais, à 17 ans. Et ma mère me dit, ouais, mais tu n'as jamais trouvé de travail. Et moi, borné.
J'ai quitté ma province.
C'est ça. Et je lui dis, si, je vais trouver. Et puis sur l'hôtellerie, restauration et compagnie, il n'y avait pas d'étoilé à ce moment-là. Je me disais, mais ce n'est pas possible, je vais bien trouver un étoilé à Paris qui cherche quelqu'un. Et je me dis, allez, réfléchis. Je me suis dit, mais tu cherches du travail, va sur Pôle emploi. Et je me connecte sur le site, hop, et là je vois quoi, restaurant une étoile Michelin, cherche commis, hop, j'appelle, et puis voilà quoi.
Voilà, 17 ans donc restaurant étoilé, 19 ans chef et 21 ans, bim, une étoile.
Ouais.
Chapeau.
Ça va vite, hein.
Ouais. Ouais, bah oui. Elle fait tout plus jeune, Julia. Hein. Parce que la cuisine, ça commence encore plus tôt, parce que vous arrivez à 17 ans à Paris, mais vous avez commencé à travailler comme apprenti à Nice, donc vous l'avez dit, à 14 ans.
Ouais,
hein,
tout à fait.
Et
après
en fait,
ma troisième.
Ouais. Et en fait, vous aviez une maman et une grand-mère qui étaient très bonnes cuisinières, donc vous avez baigné un peu là-dedans, avec les bons petits plats provençaux, puisque vous venez de Nice, comme votre nom ne l'indique pas.
Exactement. Mais... Bah moi, j'ai des origines méditerranéennes, un peu sicilienne du côté de ma maman, arménienne du côté de mon papa, mais je suis né à Nice et j'ai vécu à Nice et j'ai commencé mon apprentissage à Nice, dans un restaurant étoilé
vous
pendant 3 ans.
Vous êtes une vraie Nice-arte, comme on dit.
Ça, c'est sûr.
Et vous supportez l'OGC Nice.
On dit Nice-arte.
qui a éliminé le PSG. Ça fait pas plaisir à certains de nos auditeurs.
Ça va être la guerre, là, Manu.
Ah, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre.
On dit pas niçoise.
On dit niçoise, mais on dit niçarte.
Ouais, en patois niçois. Bah d'ailleurs, votre restaurant Bayetta, c'est du patois niçois. Ça veut dire bisous.
Ouais, c'est une expression chez nous. On dit Bayetta.
Bayetta. Bisous.
Ouais. Je t'embrasse.
Ouais. Bon, et d'ailleurs, vous aviez un deuxième établissement qui était un peu caribéen, bar, une romerie et bar à tapas caribéenne que vous avez remplacé par Cicéron. Ça, on va en parler puisque c'est un peu le sujet du jour. Hein, on va parler des légumineuses. Mais là, vous l'aviez appelé Beau, et Beau au Caraïbe, ça veut dire bisou aussi.
Exactement.
Vous êtes très bisou quoi, c'est ça. Ok. Ah bah du coup, oui, on comprend les paroles de la chanson.
De la chanson, tout d'un coup. Hein.
Moi, un Thibaut, voilà.
Après, avec le contexte, c'est un peu compliqué, mais...
Bah voilà, c'est pour ça que vous avez fermé Beau pour ouvrir Cicéron à la place.
Exact.
Alors Cicéron, pourquoi Cicéron? Parce que le 19 février, c'est la journée mondiale des légumineuses. Voilà, des légumineuses. Et quand on a réfléchi à quelqu'un de spécialisé un peu dans les légumineuses pour faire cette émission, c'est vrai que tout de suite, j'ai pas pensé. Et puis au bout d'un moment, je dis mais il y a Julia, c'est Dave Dian, Cicéron, c'est la maison, le temple du pois chiche, Cicéron.
Exactement. Bah Cicère en latin pois chiche, Cicère en arménien pois chiche également, et Cicéron, pour la petite anecdote, c'était un homme d'état de la Rome antique avec une petite verrue en forme de pois chiche. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler notre lieu Cicéron, pour le côté un peu décalé. C'est marrant, et c'est véritablement un temple du pois chiche. Il y a du pois chiche partout, on a une grosse fresque qui représente une orgie de pois chiches à l'ancienne.
Oui, il y a des très jolis dessins sur le mur. Alors, quand on voit, parce qu'il y a des femmes dessinées à certains endroits, donc c'est vrai qu'on a envie de chercher où vous êtes sur le dessin, parce que c'est des dessins un peu naïfs, hein, un peu art naïf. Hein. Et donc, là, on trouve le pois chiche sous toutes ses formes. Alors, qu'est-ce que vous avez comme spécialité de pois chiche, qui est une des légumineuses les plus consommées en France et même dans le monde, le pois chiche. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme diverses spécialités de pois chiche, parce que c'est vaste.
À Cicéron, on a une partie épicerie fine, où on a des produits secs que j'ai sourcés, avec notamment des pois chiches d'Italie, on a des pois chiches blancs classiques, on a une variété de pois chiches noirs, et on a le côté traiteur où on travaille justement ces pois chiches qu'on cuit nous-mêmes tous les matins à l'épicerie. Et en fait, on va réaliser tout de l'entrée au dessert avec du pois chiche. Alors, on va utiliser les pois chiches cuits, on va utiliser les pois chiches trempés, on va utiliser l'aquafaba, qui est l'eau de cuisson des pois chiches qu'on réutilise, qu'on fait réduire pour utiliser la protéine.
Aquafaba.
On peut faire, oui, quand vous savez, Philippe, quand vous ouvrez une boîte de conserve de pois chiches, il faut surtout pas jeter de liquide, parce qu'avec ça,
on peut faire des meringues,
des gâteaux.
Exactement.
Voilà, vous pouvez faire un équivalent. Vous pouvez faire un blanc en neige.
Ça remplace le blanc d'œuf, et ça remplace aussi très bien le jaune d'œuf si on le fait encore réduire et ça le concentre en protéines. Nous, on fait une mayonnaise comme ça à base d'aquafaba, donc complètement vegan, parce qu'on n'a pas besoin de ce jaune d'œuf qui est la base de l'émulsion avec sa protéine. Parce qu'on fait réduire ce jus qui devient visqueux, plein de protéines. Et on arrive à faire des choses miraculeuses avec le pois chiche. Et comme je disais, c'est ça qui est marrant, c'est avec la farine, avec les trempés, avec les cuits, les crus, enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. C'est un terrain de jeu énorme.
C'est vrai que souvent les gens dans leur esprit, le pois chiche, ça se limite au couscous et au houmous, alors que on peut faire tellement de choses avec le pois chiche, quoi. Au Maroc, on fait une petite salade de pois chiche cuit mais froid avec un petit peu d'oignon, un petit peu de tomates, un jus de citron et un peu d'huile d'olive. On fait anis, les panis.
Panis, la soca.
La soca.
J'ai grandi avec la panis, la soca du côté niçois. J'ai grandi avec les houmous, les falafels du côté de mon papa en Arménie. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose autour du pois chiche. Et aujourd'hui, c'est une légumineuse qui va redevenir à la mode. Mais c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, nous, on est une épicerie de quartier. Et il y a des personnes qui sont fermées encore sur le pois chiche. Mais aujourd'hui, je pense que le climat est en train de changer aussi. On va avoir de plus en plus de producteurs de pois chiches en France, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et c'est ce qui va nous permettre de remettre un peu la lumière sur cette légumineuse. Parce que dans certaines têtes, c'est un peu la légumineuse du pauvre. Mais oui. En fait, il y a plein de choses à faire et c'est super intéressant.
Ça fait partie des idées reçues un petit
ouais,
peu.
Exactement.
Alors que pourtant, parce que j'ai deux trois statistiques, hein, comme je savais que vous veniez, Julia, j'ai bossé un petit peu. Mais c'est pas uniquement les pois chiches hein, que les Français boudent. Les Français boudent toutes les légumineuses. Nous faisons partie des pays qui a la plus faible consommation de légumineuses au monde, avec moins de 2 kilos par an et par habitant. Alors qu'en Europe, dans les autres pays d'Europe, elle est estimée à près de 4 kilos par an et par habitant. Et il se trouve pourtant que le Plan National Nutrition Santé, le PNNS, recommande de manger des légumes secs ou des légumineuses deux fois par semaine parce qu'ils sont riches en fibres. Et justement, les freins à cette consommation, c'est les a priori. Alors déjà, il y a les gens qui disent « c'est vieillot ». Genre les légumineuses, c'est la saucisse lentille. Voilà.
Ouais, mais saucisse lentille, c'est trop bon.
Ben, c'est tellement bon.
Pour revenir à la base, il y a des moments... Même si tu veux pas mettre de saucisse dedans, tu mets un petit œuf, tu vois.
Ou un petit curry de lentilles indien,
mollet,
dalle. En fait, voilà.
Ça a besoin de pas grand chose.
Voilà. On dit aussi des légumineuses, hein. Ça fait partie des freins, hein, puisqu'il y a eu un petit sondage qui a été fait. C'est trop long à préparer, parce que les Français sont très friands de cuisine express et dans l'esprit des gens, les légumineuses, ça demande beaucoup de temps de préparation. Alors que les légumineuses c'est pas long à préparer, il faut juste penser à les mettre à tremper avant de partir bosser. Et quand on revient, il y a plus. Voilà. Et quand on revient, il y a plus qu'à les cuire. Comment on peut cuisiner rapidement les légumineuses, Julien?
Comme tu disais, c'est le soir, on pense à les mettre à tremper et comme ça le lendemain déjà ça enlève au moins une heure de cuisson. Et c'est super important même pour le côté digeste. Et puis aujourd'hui, on trouve des légumineuses déjà pré-cuites de qualité en bocaux. Alors, je dis pas les conserves, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas extraordinaires, mais en bocaux aujourd'hui, on a des pois chiches, des lentilles, des choses très bien. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu te fais un petit curry de pois chiches, un peu de lentilles, un peu de riz, t'as pas besoin de plus, en fait.
Que vous faites le curry de pois chiches, d'ailleurs,
on
chez Cicéron. Ouais.
Et on n'a plus besoin d'avoir à chaque repas des protéines animales, enfin.
Oui, parce qu'il faut le dire, en parlant de protéines, le pois chiche, c'est la reine des légumineuses.
Mais c'est bourré
en termes de protéines.
C'est super bon. Ça a plein de vertus et il faut arrêter d'être fermé. Et aujourd'hui, avec tous les régimes alimentaires en plus qui arrivent, c'est super. C'est sans gluten.
C'est l'aliment parfait pour le flexitarien. Les légumineuses en général, mais plus particulièrement le pois chiche, effectivement. Ouais. Et donc, vous parliez effectivement du côté indigeste aussi dans l'esprit des gens. Ça, c'est le troisième frein.
Oui.
Les gens ont répondu dans le sondage, ça ballonne. Donc
moi j'ai cru que ça fait péter.
Oui, bah c'est à peu près la même chose.
Non, parce que en un sous le pois chiche, c'est ce qu'on dit.
Une flatulence, oui, c'est sûr.
Julien, vous dites flatulé, mais voilà. Merci. Voilà, bon après chacun, mais ça revient au même résultat.
Julia, c'est l'invité, donc elle se tient bien, elle dit flatulé.
Mais c'est pour ça qu'on fait tremper, c'est mieux.
Exactement.
Ouais. On fait tremper. Et alors, petit truc de grand-mère.
Ah, j'ai eu peur.
Bicarbonate, non ?
Absolument, ouais. Absolument. Si vous voulez pas flatuler, Philippe, pour parler comme Julia, je vais un peu châtier mon langage. Si vous ne voulez pas flatuler, Philippe, il faut mettre dans votre eau de cuisson une cuillère à café, enfin selon la quantité, hein, mais bon, une cuillère à café de bicarbonate. Bon, on dit, oui, mais le bicarbonate, c'est salé, ça va être trop salé, etc. Non, le bicarbonate, quand il cuit, le côté salé disparaît, il n'y a aucun goût. Hein, donc, vous pouvez y aller. Alors, attention, il y a du bicarbonate ménager, du bicarbonate alimentaire. Il faut bien acheter du bicarbonate alimentaire, ça, je le précise. Et donc, parce qu'il n'est pas assez raffiné, le bicarbonate ménager, donc il peut avoir un petit goût amer. Un peu.
Ça ne va pas vous tuer, mais ce n'est pas la même chose, voilà.
Voilà, ça ne va pas vous tuer, mais ça c'est pas, en termes de goût, c'est moins bien.
C'est mieux pour déboucher les canalisations.
Exactement, c'est ce que je fais à la maison, Philippe. Et donc le sabalone, hein, vous mettez la petite cuillère de bicarbonate dans votre eau de cuisson, et là, vous avez... alors, ça marche pour les pois chiches et pour toutes les légumineuses. Ouais, les lentilles, les fèves. Enfin, les fèves, ça reste quand même assez digeste, hein, parmi les légumineuses. Mais, effectivement, ça permet de rendre les légumineuses extrêmement digestes. Et ça en fait, d'ailleurs, l'aliment parfait pour les flexitariens. Hein.
Est-ce que vous avez, vous, Julia, des trucs de cuisson, par exemple, pour que les lentilles...
Les lentilles, les pois chiches, nous, on met toujours un petit peu une feuille de laurier, un peu de thym, un peu d'ail, pour déjà aromatiser la base, la structure. Je trouve que c'est important, quand on a le pois chiche qui sort de cuisson, on a déjà quelque chose qu'on pourrait manger juste avec un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, basta, quoi. Mais ça fait la différence. qui fait la différence.
Ouais, puis d'une manière générale, s'il reste un petit talon d'oignon, une petite fane de carotte, on ne jette rien.
Ah, mais c'est clair.
Et ça, dans l'eau de cuisson des lentilles ou des pois chiches, on ne jette rien. On ne jette rien. Alors, les légumineuses, pardon, il y a aussi un enjeu sociétal, parce que comme on consomme pas assez de légumineuses en France, on n'en cultive pas beaucoup, enfin on en cultive moins que les autres pays européens, parce qu'on en cultive quand même pas mal, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça enrichit la terre pour la culture suivante, et du coup ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est même écolo de manger des légumineuses, vous voyez.
Vive le pois chiche.
Ah bah voilà.
c'est ma passion, moi, le pois chiche.
Bah c'est tellement bon.
Ah oui, moi j'ai une passion pour le pois chiche. Je trouve ça tellement audacieux de créer un endroit qui ne fait que du pois chiche et autour du pois chiche. C'est quand même une sacrée idée.
Ah bah vous allez peut-être abandonner un peu votre amie Delphine Plisson pour aller chez Julia de temps en temps maintenant alors.
Voilà.
Je balance entre le guacamole et l'hummus en fait. Ouais. C'est ça. Mais est-ce qu'on a essayé de vous dissuader de monter en endroit consacré au pois chiche en disant mais tu sais, ça va intéresser personne ou.
Pas dans ce sens-là, mais c'est vrai, comme je disais, il y a des clients qui arrivent dans l'épicerie un peu réfractaires au pois chiche, un peu réfractaires, et puis après on les emmène dans l'univers aussi, c'est ça qui est, y a une histoire à raconter. Moi sur le côté épicerie, j'ai des produits tout de suite qui sont un peu régressifs, j'ai des chips à base de pois chiche, des bières à base de pois chiche, et c'est des choses qui vont attraper, on va se dire OK, il y a des choses qui sont accessibles et qui sont de mon quotidien. Et en fait, ils vont commencer par ça, et puis ils vont revenir, et puis on va leur faire goûter au fur et à mesure. Mais c'est vrai que le pois chiche, c'est un risque, hein. C'est un défi, mais nous, on aime les défis.
C'est un vrai défi, parce que c'est pas un légume glamour, et pour l'instant, ça n'a pas encore remis à la mode.
Cuisiné
par la plus jeune chef étoilée du monde, excusez-moi. Je pense quand même que ça rend le pois chiche, enfin, les légumineuses en général, glamour, pour pas dire sexy, hein, Philippe.
Bien, et on en parle jusqu'à 13h. Si vous aussi, vous avez des recettes de pois chiches ou de légumineuses, vous nous rejoignez...
Ou des questions à poser à Julia.
Voilà, vous êtes bienvenue, vous nous rejoignez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Et Manu, nous parlons des légumineuses aujourd'hui et plus précisément du pois chiche.
Plus particulièrement des pois chiches, effectivement. Déjà pour vous faire plaisir, Philippe, hein, parce que vous êtes un pois chichoïnomane.
Exactement.
Et puis parce que nous avons avec nous Julia Sedevdian, chef étoilée du restaurant Bayetta, mais également créatrice d'un nouvel endroit qui s'appelle Cicéron, le temple du pois chiche. Hein, le temple du pois chiche, rue de Poissy, voilà, dans le. Voilà, et Bayetta, c'est la rue après. Rue de Pontoise, voilà, Bayetta, qui on rappelle, qui veut dire bisou en patois niçois. Et d'ailleurs, juste avant un peu avant la pause, vous nous parliez des panisses et de la soca. Alors, nos auditeurs sont des grands amateurs de street food, hein, ça on le sait parce qu'on commence à les connaître depuis quelques années qu'on fait cette émission. Mais il se trouve que certains ne connaissent pas forcément les panisses et la soca. Alors expliquez-nous quelles sont ces spécialités niçoises, Julia.
C'est vrai que c'est encore un peu méconnu. Mais la soca, c'est une galette qui est cuite dans un four à charbon à base de farine de pois chiche. En fait, ça, c'est cuit sur des plaques en fonte. Et la particularité, c'est qu'il y a peut-être à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Et le fait de cuire dans ce four, ça va faire une très, très haute chaleur. Donc, on va avoir un côté très, très croustillant, limite,
sur le dessus,
très grillé sur le dessus. Et un moelleux à l'intérieur. Et ça, ça se grignote. Il n'y a pas d'heure pour manger une soca. Tu vois, tu te balades sur le marché et tu te fais un petit peu de soca, juste un coup de moulin à poivre dessus. Et les panisses, c'est pareil. J'ai des souvenirs de panisses. Ma maman.
Alors, les panisses, expliquées, c'est un peu comme des frites de pois chiches. Bah,
exactement.
C'est ça,
c'est des frites de pois chiches. Et traditionnellement, elles sont moulées dans des sous-tasses à café. Et on les taille en bâtonnets après. Et nous, quand on était petits avec mes frères, on adorait ça. Quand maman nous faisait ça, c'était mieux que les frites.
C'est des churros niçois.
Ouais, clairement. Et on les. on les dérive un peu à Cicéron, un peu, on en fait des natures, tomates confites, zaatar, et ça marche à tous les coups. Une panisse, c'est trop bon.
Ah, ça, les panisses, tout le monde.
Il n'y a pas d'heure pour en manger.
C'est comme le bâton de berger, dirait un certain Justin Bridoux. Alors,
t'es un enfant de la pub, Manu, hein. C'est incroyable.
Alors,
ça.
est-ce que la soca, Philippe, ça vous fait pas penser un petit peu à la Calentica ou à
j'étais moi, je pensais que c'était, voilà, la version niçoise de la Calentica.
Voilà, bah la Calentica, oui. Vous connaissez la Calentica
J'en ai mangé une fois, j'en ai entendu parler. Après, je suis sûr que vous êtes un spécialiste.
Mais... spécialiste, non, mais non, mais c'est un plat. Alors, c'est un plat espagnol d'Oran, hein, pour être précis. Alors, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui disent non, c'est algérien, mais bon, non, c'est.
Oui,
la
Manu,
c'est...
vous allez encore vous faire des amis. On va dire que c'est un plat oranais.
C'est un plat oranais.
S'il vous plaît.
C'est pendant le siège d'Oran, quand les Espagnols occupaient encore Oran, ils étaient dans la forteresse d'Oran. Effectivement, ils étaient assiégés depuis tellement longtemps par les troupes arabes que ils n'avaient plus rien à manger, et ils ont retrouvé des sacs de pois chiches, de farine de pois chiches, et le cuisinier espagnol s'est dit, oh là là, mais je vais essayer de bricoler un truc avec ça. Il a fait un espèce de flan qu'il a cuit dans le four du boulanger, donc ça ressemble un petit peu effectivement à la soca. Et puis il a fait du pain à côté, et donc il a servi ça, et à peine sorti du four, tout le monde voulait venir à pleine main attraper ce truc qui était brûlant, et il disait calentita, calentita, ça veut dire c'est très chaud, et donc c'est resté, voilà, la calentica, d'où ça vient.
Un petit peu d'huile d'olive, du pain, hein, ça se mange en sandwich.
Moi j'aime bien un peu de cumin, huile d'olive, cumin, parfait. Dans un bout de pain, et yalla.
D'ailleurs, c'est ça, les épices avec le pois chiche.
Oui.
Très important.
Mais qu'est-ce qui marche alors justement comme épice avec le pois chiche?
Cumin, raser la nout, zaatar, tout en fait, parce que le pois chiche, il a un goût. On sent cette amertume, on sent ce côté terreux, mais il prend pas le dessus sur le reste. Donc on peut facilement en faire ce qu'on veut, lui donner le goût d'un autre aliment sans qu'il prenne le dessus. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que on peut faire la même préparation avec différentes épices et on va à chaque fois retrouver d'autres saveurs et avoir l'impression que c'est une autre recette alors que pas du tout. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le pois chiche. C'est...
Moi, quand je cuis les pois chiches, j'adore mettre quelques 2-3 feuilles de sauge dedans. La sauge et le pois chiche, c'est magnifique. Hein. Ça sublime vraiment le goût du pois chiche. Et puis en plus, je trouve que ça l'allège un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais bon, la sauge en plus a des propriétés médicales intéressantes. C'est un désinfectant, un assainissant. Donc c'est très bon pour la. C'est le duo gagnant. Pois chiche sauge.
Et une soupe qui est très populaire en Tunisie, de la street food, Manu.
Voilà. Bon, il y en a pas qu'une.
Il y en a plus.
Mais... Il y a, parce que du pois chiche, on en trouve dans certaines versions de la rira. Effectivement, il y a des soupes.
Alors, il y en a un qui s'appelle le blébi, qui est très.
La blabi, et il y a des versions aussi avec des petites pattes, hein, du la blabi avec les petites pattes langue d'oiseau.
Mais qui arrache un peu quand même. Hein, c'est une.
Oui. Bah, de toute façon, là, c'est un peu le berceau de la rissa, hein, la Tunisie. Hein, on aime bien manger épicé, mais pas en même temps.
Le roi de la formule. Dans ces moments, il faut savoir enchaîner. C'est pas toujours facile.
À vous, Philippe.
Donc vous, comment ça se passe? Tous les jours, vous proposez un plat différent autour du pois chiche, Julia?
Alors, on n'a pas tous les jours un plat du jour ou un plat qui change, mais par contre, on a beaucoup de choix. On a du choix végé, on a du choix avec un peu de poisson, un peu de viande, mais c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. On essaye de faire un endroit pour tous, donc on va avoir du curry de pois chiche, on va avoir du saucisse lentille avec des perugines qui sont des saucisses de base italienne mais qu'on consomme beaucoup à Nice, on va avoir les panisses, on va avoir des patates douces rôties avec un peu de tahine. Enfin, on a vraiment une variété... pour tous, parce que de base, moi, cette épicerie, j'ai eu envie de la monter, parce qu'autour de moi, il y a de plus en plus de régimes alimentaires. Je m'en rends compte aussi au restaurant, à Bayetta, de plus en plus d'intolérants au gluten, de plus en plus de personnes qui veulent moins manger de protéines. Donc, c'est...
Oui, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des protéines dans les légumineuses, mais ce sont des bonnes protéines. Hein, ce ne sont pas des protéines animales qui sont vachement saturées.
On peut faire un repas complet avec des légumineuses.
Alors, bonnes protéines, Manu, non. Il y a des protéines qui sont végétales et animales. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, mais ce sont des protéines végétales.
Oui. Bon, moi, je simplifie pour les auditeurs. On n'est pas dans à votre santé, Philippe. Hein.
Non, parce que la viande aussi. Après, il ne faut pas dégoûter de la viande ceux qui en mangent quand même. et c'est de la bonne protéine. Mais c'est vrai que la protéine du pois chiche est une protéine royale, en fait, hein, et de très bonne qualité.
Alors, sur votre site, j'ai vu que vous faisiez une mayonnaise au pois chiche, Julia, chez Cicéron. Alors, qu'est-ce à quoi la mayonnaise au pois chiche? C'est quoi le principe?
Oui, tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on récupère l'aquafaba, donc l'eau de cuisson des pois chiches, qu'on fait réduire. Donc, on va avoir une consistance blanc d'œuf cru. Et en fait, ça va nous servir à émulsionner notre mayonnaise. Et pas besoin de jaune d'œuf. On va la monter moutarde.
Donc on va faire une mayonnaise végane pour les véganes extrémistes qui mangent même pas d'œuf.
Exactement.
Là, les vrais végétaliens, on fait une mayonnaise.
On la sert avec les panis, tu vois, comme ça. Et c'est top. Et je te la fais goûter
dedans.
Demain. Je te dis pas que c'est une mayonnaise végane. Tu me dis jamais c'est une mayonnaise végane.
C'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai jamais essayé encore. Ouais.
Incroyable.
Ouais.
Et elle doit se conserver plus longtemps, en plus.
Hein. En plus.
Ouais, c'est ça qu'il faut. Donc,
Y a tous les avantages. Donc voilà, faut faire des tests parce que ça demande un peu de précision, la bonne texture, les bons. Mais il y a plein de choses à faire. Là, je réfléchis à des tests de crème pâtissière. Il n'y a pas de limite, en fait. On arrive à faire plein de choses, du sucré, du salé.
Une huile flottante avec d'aquafaba aussi, ça marche. J'ai essayé une fois et ça marche.
Des meringues, plein de choses.
Oui, c'est très bon les meringues d'ailleurs.
Des brownies, des cookies. Et puis on remplace souvent les matières grasses aussi avec les oléagineux. On fait des brownies, des cookies avec les amandes, des noix de coco. Tu vois, si on veut faire des pâtisseries complètement véganes, et ça marche.
Je lui ai dit à Julia avant l'émission qu'il fallait qu'elle écrive un livre, hein, parce que elle a plein de bonnes idées. Alors, le pois chiche, c'est un peu aussi l'ingrédient roi du falafel. Parce que vous faites aussi des falafels chez Cicéron. Alors vous faites des variantes, vous faites un falafel tradi à la libanaise.
Je fais la recette familiale, je sais pas. Nous on fait juste tremper des pois chiches 2-3 heures et après herbes fraîches, ail, citron, épices. Donc moi je mets cumin, zaatar, sumac. Et le plus important, ouais, c'est des bonnes herbes fraîches en quantité.
Oui.
Persil, coriandre. Faut que ça soit assaisonné. Moi, j'aime
bien quand falafel, ça. Ça doit être vert à l'intérieur.
Ouais.
Hein. Quand ils sont blancs ou gris à l'intérieur, c'est que le taf a pas été fait. Ouais.
C'est mon petit secret. Je mets un peu de levure chimique et comme ça, en cuisson, ça s'aère. Et c'est pas étouffé, tiens, comme.
Ouais, ils sont moelleux, croustillants dehors et moelleux dedans.
Un petit houmous là à côté, c'est.
Ça, c'est un bon truc que j'essaierai, ça. Parce que c'est vrai que les.
Pour le falafel, ce sont des boulettes de pois chiches, hein.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mais alors, avec les pois chiches crus, juste trempés. Parce que si on fait avec les pois chiches cuits, impossible, ça tient pas, ça fait.
Ça fait des acras. Ça fait de la pâte à tartiner.
De l'éclaté de pois chiches frits.
Ça fait du houmous frit, c'est ça. Mais alors, il y a des variantes de falafel hein, qui sont faites tout ou partie avec une autre légumineuse qui est la fève aussi.
Ça se fait avec tout. Et comme le houmous, ça peut se faire avec les lentilles, ça peut se faire avec les haricots. On peut faire un houmous de haricots rouges. Tu fais tremper tes haricots rouges, tu les cuis. Pareil, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de dérivés. Une fois que tu as la technique de base, après, elles se ressemblent un peu toutes, ces légumineuses. Donc, tu adaptes la cuisson, tu adaptes la texture. Mais c'est ça qui est intéressant. On peut faire, tu vois, les lentilles, pareil, tu les fais tremper, cuire, un petit houmous, et ça change. Puis ça permet de varier un peu, comme on disait tout à l'heure, les saucisses lentilles. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Alors, c'est vrai que j'avais goûté une fois, il me semble, un houmous de haricots plats tarbés. Je me demande si c'est pas Alain Dutournier qui avait fait ça. Le houmous, on peut le faire effectivement avec pas mal de choses. Vous êtes 100% pois chiche, le houmous à Cicéron?
Pour l'instant, oui.
Mais sur la traduction, ça veut dire quoi, houmous? Alors, c'est pas crème de pois chiche, alors, houmous, ça veut dire
mais
quoi?
Mais houmous, ça veut dire pois chiche.
Ben oui, donc on peut. Comment est-ce qu'on peut faire un houmous de haricots?
Ah, parce qu'on a gardé le nom houmous.
Voilà, je m'interroge, Manu.
Est-ce qu'on s'autorise un peu de créativité?
C'est ça, d'accord. mais on ne parle pas de la même chose.
Si vous étiez plus jeune chef étoilé du monde, Philippe, vous comprendriez.
Voilà, non. Je sais pas ce qu'on mangerait. On mangerait pas grand-chose. C'est vrai que le houmous, aujourd'hui le pois chiche, c'est vraiment le succès du houmous. Et quand on va et qu'on teste différents endroits, le houmous n'a jamais le même goût. Nulle part, finalement. C'est quoi la vraie recette du houmous, si on peut dire comme ça, et la base d'une bonne texture de houmous?
On peut pas dire la bonne recette, la mauvaise recette. On a tous, en fonction des emplacements aussi, des textures différentes. Moi, je sais que de mon côté arménien, on va faire un houmous plus texturé. Au Liban, il va être plus soyeux. En fait, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure...
Comme la pisse saladière.
Comme la pisse saladière à Nice, comme la salade niçoise. Il y a autant de recettes que de familles. Et tout le monde dit, ah, j'ai la meilleure recette, j'ai la meilleure recette. Et puis, en fait, il faut juste la faire comme on l'aime.
Et vous, votre recette, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mousse que vous faites ?
Pois chiches, cuits par nos soins. D'accord. Et ça, c'est ce qui fait la différence quand même. On passe notre temps à éplucher les pois chiches. De l'ail, du citron, du cumin, du tahine, bien sûr, la crème de sésame. C'est ce qui fait...
Le goût, là.
Le goût, le goût et le soyeux, un peu.
Exactement. Et on finit avec un peu de sumac, un peu d'huile d'olive. Et on fait un houmous noir avec nos pois chiches noirs. Et on fait un tahine de sésame noir. Donc, on mixe le sésame noir. Et comme ça, on a une belle couleur noire. Et ça a un goût complètement différent. Une amertume, un côté un peu torréfié. C'est super intéressant.
Voilà, alors que pour faire du houmous noir, les chefs qui ne sont pas plus jeunes chefs étoilés du monde, eux, ils mettent simplement du charbon actif. Du charbon végétal.
Et est-ce que le goût est
vrai? C'est bon. C'est bon d'ailleurs à mettre avec les pois chiches.
Oui, pour la digestion. Pour la digestion toujours. Ouais.
Est-ce que ça a un goût différent, le pois chiche noir?
Ouais, ça a un côté plus torréfié, un peu plus sur l'amertume. C'est une variété plus ancienne, donc on va être plus épais sur la peau, donc il faut les faire tremper encore plus longtemps. Mais franchement, moi, je suis tombée amoureuse de ces pois chiches noirs parce que je trouve que ça fait la différence, ça fait l'originalité.
On les trouve où? Parce que moi, j'en ai jamais vu, hein, des pois chiches noirs.
On les trouve en Italie. C'est une variété, je crois, qui a commencé dans les Pouilles. Et nous, c'est notre producteur Marco Viola qui nous fait ça en Italie. Et franchement, c'est génial.
Mais alors, c'est ça qui est rassurant chez Cicéron, parce que quand Julia parle de ses produits, à chaque fois, on connaît le nom du producteur. Hein. Du coup, c'est vrai que c'est agréable de voir qu'il y a un vrai sourcing, un vrai travail de sourcing derrière. Et pourtant, vous avez des prix super raisonnables, je trouve, hein, par rapport aux traiteurs un petit peu chic, un petit peu gastro. Je trouve que vous avez des prix très, très raisonnables. Quoi.
On essaye de rester accessible. C'est un peu notre âme depuis le début avec les garçons, même sur Bayetta, je pense qu'on est un des restaurants étoilés de Paris le plus accessible, parce que voilà, on est comme ça, on est jeune, on a envie de toucher tout le monde, et le but c'est qu'il y ait tout le monde qui vienne chez nous, qui puisse pousser la porte, que ça soit des étudiants, que ça soit un jeune couple actif, les personnes âgées dans le quartier, enfin voilà,
qui puisse s'offrir l'expérience.
Exactement.
En fait.
Oui,
exemple de prix, hein, le houmous 150 grammes, 3,90 €. Hein, ça, c'est vos prix sur le site internet, on clique, on collecte.
C'est 1 euro, entre 1 euro et 1 euro 20 en fonction des épices. Non, on est abordable.
La part de pisse saladière à 2,50, c'est moins cher qu'à Nice. Mais c'est vrai, faut le dire. Non, franchement, vous avez des prix hyper accessibles. Et alors, moi, j'ai un peu bugué sur votre site internet. C'est que j'ai vu moi qui pensais connaître la cuisine niçoise, j'ai vu des perugines aux lentilles. C'est quoi ça, les perugines?
Donc les perugines, c'est ces fameuses saucisses aux graines de fenouil. Et ma maman, elle nous faisait ça tout le temps avec les saucisses lentilles. En fait, ça amène un côté sur le fenouil qui est très du sud, quoi. Donc, faut aimer, c'est particulier. Mais moi, c'est des super souvenirs d'enfance et j'ai voulu remettre un peu à l'honneur à Cicéron.
Voilà, 100% pois chiche ce matin. Et on parle des légumineuses avec vous. Dans un instant, on prendra vos appels au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Alors on parle de légumineuses ce matin, Manu, et plus précisément du pois chiche.
Du pois chiche, hein, la légumineuse star de la nouvelle, comment on pourrait dire, épicerie traiteur de Julia Sedevdian, notre invitée du jour. Hein, alors pas que, hein, mais beaucoup de pois chiche et sous toutes ses formes. Hein, c'est ça qui est sympa. On peut chez Cicéron, on peut manger du pois chiche tous les jours sans s'emmerder. Hein.
Je préfère écouter Younes, Manu, que de vous entendre. Younes, bienvenue.
Oui, je vous entends.
Voilà, Younes, bonjour. Vous nous appelez de Grenoble.
Tout à fait.
Le pois chiche, ça vous inspire?
Ah, si, ben moi je connais, mais moi, c'est la vieille qui m'a saoulé ce matin, elle vous écoute tout le temps.
La vieille qui vous a saoulé ce matin?
Oui, elle m'a dit, appelle vite fait, Dorafa, mais tu leur demandes c'est quoi l'houmous. Alors, je lui ai dit, Hamas, elle m'a dit non, tu connais rien, ça doit être autre chose, le mousse. Voilà. Donc, il faut rassurer, lui rassurer. Qu'est-ce que c'est? Elle comprend français, mais le mousse, elle n'a jamais entendu.
Ah. Ça veut dire quoi, au mousse?
Vous annoncez le mousse.
Vous voulez quoi, Younes? Vous voulez la recette du houmous ou vous voulez savoir ce que veut dire
houmous? Non, rassurez, je suis benyak, le houmous, c'est le hamos.
Ouais, c'est ça, oui, c'est le pois chiche.
Voilà.
Bon, vous avez bien fait de nous appeler parce que moi je suis rassuré, Younes. Hein.
Ouais, on est passé à côté d'un drame là.
Oui,
il y avait un cas de divorce chez Younes là.
Il y a beaucoup de
c'est quoi le problème? La prononciation en fait.
C'est ça. C'est la prononciation, voilà.
Bon, on va faire des efforts. Vous dites à madame.
Le hummus. Mais elle n'a jamais entendu le mousse. Quoi.
Ce qui est important, c'est le H.
Le H a aspiré.
Bon, bah, en tout cas, Younes, merci de nous avoir rejoints, en tout cas.
Voilà, tout est bien qui finit bien.
Et je vous écoute tous les matins, moi.
C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, restez fidèles à Grenoble, hein, Younes.
Nous, là, depuis la création des Radio Barra.
Ah ben vous avez une carte diamant alors.
Vous avez la carte du club là.
Oui, il a la
depuis
carte 80, diamant
depuis
ouais.
84.
Vous avez reçu votre carte diamant, Younes?
Ah non.
Ah ben voilà, c'est ça. Il faut réclamer, il faudra demander à Maître Boily au standard.
Voilà, qui n'était pas né en 84, donc rappelez-lui bien la date hein, pour qu'il la mette sur votre carte.
Ouais, moi quand j'étais à Grenoble, j'ai fait connaissance, ils ont fait la tournée au début.
C'est vrai.
Pour se faire connaître.
Exactement, tout à fait. Younes, merci pour votre appel.
Et bon week-end.
On parle du pois chiche et de tout ce qu'on peut faire avec les pois chiches, mais alors plus étonnant, les desserts, Manu.
Oui, alors le pois chiche, alors soit avec la coiffaba, soit avec le pois chiche lui-même, on peut faire des desserts, on peut faire des flans, des choses comme ça. Alors et notamment, on peut du coup se passer pour les gens qui sont intolérants au gluten, on peut se passer de la farine, on peut se passer de l'œuf. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme dessert, Julia, avec du pois chiche?
Comme je disais tout à l'heure, nous on fait des brownies, des cookies. Après, il faut souvent la mélanger avec de la farine de riz pour les sans gluten parce que la farine de pois chiche elle s'effrite très vite.
D'accord, ouais.
Donc c'est vrai que nous on fait souvent des mélanges de farine.
C'est plus granuleux, c'est ça?
Ouais, plus granuleux. Et puis même en termes de goût, ça reste très puissant. Donc c'est bien de la mélanger un peu. Donc farine de riz, farine de pois chiche, farine de châtaigne, farine de sarrasin, on fait des petits mélanges. Mais on fait des pâtisseries.
On ne peut pas l'utiliser, voilà, 100%
on
farine.
Peut, ouais. Mais c'est vrai que ça devient vite très fort et les textures sont compliquées. Après, même sur des galettes de pois chiches, des crêpes de pois chiches, c'est bien de faire un petit mix pour qu'il y ait une tenue qui ressemble un peu à celle de la farine de blé, qui elle se tient très bien. Mais.
Est-ce qu'on peut faire des pâtes, là je parle de pasta, hein, avec de la farine de pois chiche, par exemple?
C'est drôle que tu me dises ça, parce que j'ai fait un essai avec mon boulanger, là, et on a goûté ça avant-hier, et quand j'ai goûté, je me suis dit, là, il y a des choses à faire. Tout de suite, je me suis dit, allez, on va faire des petites ravioles, ricotta, sauge, citron, c'est super. Mais par contre, il faut sélectionner une très bonne farine, c'est ça le secret.
Ouais.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des moulins qui font des super farines de pois chiches, de lentilles, de légumineuses, ça fait la différence. Moi, j'ai des farines de pois chiches, j'arrive même pas à faire des panisses avec, ça ne se tient pas. Ça, dès qu'on les met en cuisson, ça se décompose. Voilà, parce que c'est des choses, c'est mélangé avec je sais pas quoi.
Donc il faut des légumineuses de qualité.
Ouais.
Alors Noara est avec nous. Noara, bienvenue.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Noara, comment
ça va? Ça va, merci. Monsieur Philippe, il est parti dans les annales, on ne sait pas bien.
Bon Noara, vous voulez nous parler de pois chiches?
Non, moi je voulais savoir comment on fait la mousse de pois chiches comme la tartine. Ils vont déjà dans les boîtes, mais on ne sait pas faire.
Ah oui, c'est la recette du houmous. Ouais, il y a beaucoup de houmous industriel d'ailleurs. Hein,
Souvent pas
comme
très
les tartines,
bon.
Voilà.
Alors, le houmous qu'on met sur une pita ou sur un bout de pain, etc. Donc la recette du houmous classique, comment vous faites ça, Julia?
Allez, on va dire 500 g de pois chiche pour 4 cuillères de tahine, donc la crème de sésame, un jus de citron pressé, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de cumin, sel, poivre et après les épices comme on aime. Pois chiche cuit, bien sûr.
J'ai pas compris bien.
Ah, oui, alors peut-être que vous ne nous entendez pas bien, Noira, parce que vous avez la radio allumée derrière. Il faudrait que vous fermiez
voilà,
votre radio.
C'est ça.
Parce que ça
ouais,
fait un écho. Coupez la radio, vous allez nous entendre dans le combiné. Et comme ça, on va vous répéter en deux mots là. Mais il y a un supplément hein, si on vous donne deux fois la recette. Attention.
Voilà, merci.
Donc, merci. On est sur une base de 500 grammes de pois chiches.
De pois chiches, oui.
Tout à fait.
Oui.
Donc, avec le jus, c'est important. Donc, dans le mixeur, on met 500 grammes de pois chiches, la moitié de l'eau de pois chiches si on prend conserve ou bocal. Avec un jus de citron pressé, deux gousses d'ail, une cuillère à café de cumin, sel, poivre et quatre cuillères de tahine, la crème de sésame qui va faire l'onctuosité du houmous.
Voilà.
Bon, alors moi, comme je suis un gourmand, j'aime bien au moment de servir un petit peu d'huile, une bonne huile d'olive dessus. C'est pas péché.
Mélanger un peu, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Hein.
Merci
bisous, Noira, de nous avoir appelé.
Allez, au revoir, monsieur. Au revoir.
Bon week-end. Et ça marche avec les conserves en fait. On peut utiliser des pois chiches donc soit en boîte soit en bocal. Hein,
ouais, ça marche très bien avec la conserve, mais c'est vrai que avec des pois chiches qu'on cuit nous-mêmes, ça a une saveur différente, une texture différente. Ouais. Moi, j'ai eu l'habitude de le consommer comme ça avec mon papa, mais ça marche très bien les conserves quand on n'a pas le temps. En plus, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est pratique, t'as le mixeur, t'ouvres la boîte, hop là, un petit coup de mixeur et puis.
Oui. Et puis il y a un très gros avantage hein, avec les conserves de légumineuses. C'est vrai que quand on les conserves de légumes frais, frais qui ne le sont plus du coup, hein, mais genre haricots verts, petits pois, comme pour cuire, pour faire des conserves, il faut cuire à très haute température pendant très longtemps. D'ailleurs, le légume, il est mort deux fois, quoi. Hein, alors que les légumineuses, comme ça nécessite une cuisson longue, ben ça supporte très bien la mise en conserve. Et du coup, quand on achète, comme le disait Julia, hein, des bocaux de conserves de qualité, on arrive à avoir des saveurs quand même très proches des légumineuses qu'on
c'est
fait
vrai,
cuire soi-même.
Une tenue un peu plus.
Donc ça supporte très bien la conserve et si vous voulez, si vous dites c'est long à cuisiner, vous pouvez faire vos propres conserves vous-même. Hein, y a plein de tutos super bien faits sur internet pour vous apprendre à faire vos conserves maison avec les bocaux, soit à vis, soit avec le petit caoutchouc là. Et donc n'hésitez pas à faire vos conserves de lentilles, de pois chiches vous-même et comme ça vous en aurez près d'avance, mais avec des produits de qualité que vous aurez cuisiné vous-même.
Bon, c'est la semaine des crêpes, hein, ça vous a pas échappé. Donc, vous faites-vous des crêpes à base de farine de pois chiche?
Ouais, c'est vrai que cette semaine, c'était la chandeleur.
Ah, là, c'était la semaine.
Oui.
Hein,
ouais.
On s'est fait une petite recette de crêpes. Justement, on a fait un mélange farine de riz, farine de pois chiche. Puis à l'épicerie, on a des bonnes confitures, des bons miels. J'ai une pâte à tartiner aussi, super, sans huile de palme, avec noisettes du Piémont. Voilà. On s'en lasse pas des crêpes, hein. C'est régressif, mais qu'est-ce que j'adore ça.
Ah mais c'est vrai, c'est toujours bon les crêpes.
Ouais.
Alors nous, il y a un truc qu'on aime beaucoup chez Beurre FM, ce sont les briques. Et vous faites des briques végétariennes ou des briques à la viande, hein, 2,10€ et 2,50€.
Mm-hmm.
Très bon marché. Vous faites une recette tradim maghreb. Qu'est-ce que vous c'est à la Julia? Comment vous faites
c'est
ça?
Exactement à la Julia. J'ai fait les tests là il y a 3 semaines. Les végés, je fais un mélange ricotta, feta, épinards, un peu d'ail, des épices. Je prends une feuille de brique bien roulée, donc c'est gourmand. On a une belle brique et à la viande hachée, des épices. Et c'est gourmand, c'est croustillant.
Bon,
pas
comme
plus. Ouais. Et je l'ai cuit au four par contre.
Ah, ça c'est intéressant, ouais.
Parce que c'est vrai que
c'est moins gras, ouais, c'est moins gras.
Frit, c'est bon.
Ouais, c'est bon,
après,
mais c'est pas bon pour le profit.
Tout se paye. Voilà, faut le savoir.
Mais ça ballonne, comme on disait tout à l'heure.
Non, tout se paye, mais c'est bon.
Mais on rappelle peut-être, parce qu'on approche de la fin, Philippe, les adresses de Julia Sedevdian, notre invitée du jour, plus jeune chef étoilé du monde, j'ose le dire. Donc le restaurant Bayetta, hein, restaurant étoilé 5 rue de Pontoise à Paris 5e. Vous tapez restaurant Bayetta sur internet, vous la trouvez tout de suite. Et son traiteur, épicerie fine, traiteur Cicéron, juste à côté, dans la rue à côté, 8 rue de Poissy à Paris 5e. Et donc notre invitée était Julia Sedevdian. Merci beaucoup Julia d'être
venue.
Merci
à vous.
Et puis on vous fera revenir, j'espère, bientôt.
Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.